DW, le club de l'auditeur.
La hausse des températures et ses conséquences pour le continent africain. On en parle aujourd'hui avec de nombreux témoignages dans ce club des auditeurs et internautes, animé par Mireille Drone, comme tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et un bonjour particulier à René de la plaine des Cafres sur l'île de la Réunion, à Ousmane de Lomé au Togo, Miss Barou de Niamey au Niger, Esther de Dakar au Sénégal, Séverin d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Arnold de Ngaoundéré au Cameroun et Nathan de Bukavu en RDC. Et puis Ali de Sokodé au Togo, Joseph de Mbujimaï en RDC, Boubacar de Torokoro-Bougou au Mali et Akilou de Parakou au Bénin, ainsi que François de Nogent-sur-Marne en France, ont fêté ces derniers jours leur anniversaire. Alors nos meilleurs vœux à tous. La hausse des températures fera basculer des millions de personnes en Afrique dans la pauvreté et la faim si les gouvernements n'agissent pas rapidement. C'est ce que souligne l'organisation Oxfam International, composée de 20 ONG qui agissent contre les injustices et la pauvreté, après la publication la semaine dernière, le 8 octobre, du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Selon les experts du GIEC, chargés d'évaluer l'ampleur du réchauffement climatique et son impact, il est urgent d'agir. Et au lieu de contenir la hausse des températures à 2 degrés, comme prévu dans l'accord de Paris sur le climat, le rapport détaille les progrès et voies possibles pour limiter le réchauffement global à 1,5 degré Celsius. Les scientifiques décrivent en effet les risques d'emballement au-delà de cette température de 1,5 degré. Ces risques, ce sont par exemple les canicules, l'extinction des espèces, la montée des océans, etc. Et force est de constater que les changements sont déjà perceptibles. Les changements climatiques ont mis le feu à notre planète. Des millions d'individus en ressentent déjà les effets, souligne ainsi Oxfam. Apelos Nwafor, directeur panafricain chez Oxfam International, affirme qu'une Afrique plus chaude est une Afrique qui souffre davantage de la faim. Aujourd'hui, avec seulement 1,1 degré de réchauffement au niveau global, les récoltes et le bétail à travers la région sont touchés et la faim progresse. Les cultivateurs pauvres avec des petites surfaces dans les zones rurales faisant partie des populations les plus touchées. Même avec 1,5 degré de réchauffement, les impacts climatiques en Afrique de l'Ouest seraient dévastateurs. Les rendements du blé pourraient chuter de 25% et une hausse de 1,5 degré pourrait faire de Lagos au Nigeria une nouvelle ville souffrant de stress thermique comme New Delhi en Inde. En Afrique subsaharienne, 1,5 degré de réchauffement d'ici les années 30 pourrait faire qu'environ 40% des zones actuelles de culture du maïs ne seraient plus adaptées aux variétés actuelles et des impacts négatifs importants sur la convenance du sorgho sont prévus. À 2 degrés de réchauffement, des chaleurs extrêmes jamais connues auparavant pourraient affecter 15% de la superficie territoriale de l'Afrique subsaharienne à la saison chaude, provoquant des décès et compromettant la capacité des agriculteurs à produire des cultures. Et si la température globale augmente de plus de 2 degrés avant la fin du siècle, et bien d'ici 2050, les températures diurnes en Afrique du Nord, comme au Moyen-Orient, pourraient atteindre 46 degrés les jours les plus chauds, une situation potentiellement mortifère. Alors vous êtes nombreux à témoigner de ces changements dans vos pays respectifs, comme Ousmane de Niamey au Niger par exemple. Chez nous, nous ressentons bien ce changement climatique. La forme la plus fréquente, ce sont les inondations inhabituelles, écrit-il. Mahamadou, enseignant à Tawa, au Niger toujours, observe lui que les saisons sont plus néfastes cette année. Il s'explique.
Il y a un changement climatique. Quand vous voyez la pluviométrie, même est très, très rare.
Par rapport aux années précédentes?
Par rapport aux années précédentes, effectivement. Et la saison est tellement néfaste.
Moïse, quelles sont les répercussions exactement?
Là, on peut peut-être dire suite à la diversification et au radar du soleil en sorte qu'il gêne la population.
Ce qui se ressent, par exemple, sur les cultures.
En tout cas.
Quelles sont les conséquences les plus perceptibles?
C'est le débroussage et encore ces va-et-vient, surtout des engins.
C'est-à-dire?
Donc, quand on se déplace, il y a le dégagement de carbone que faisaient les engins, de sorte que ça va dégrader la nature, de sorte qu'il y a une forte chaleur qui va s'abattre les gens.
Et donc, du coup, est-ce que du fait des récoltes, ça fait augmenter les prix, par exemple, sur les marchés ou
Ça fait augmenter. Vous voyez, maintenant, un sac de 25 kilos de mil serait une somme de 12 000 francs CFA.
Oui.
Et ça continue à s'augmenter du fait que les récoltes sont mauvaises.
Par rapport à quel prix l'an dernier, par exemple, ou les années précédentes?
Dans les années précédentes, on peut trouver un sac de 25 kilos pour le mil à 10, 11. Mais maintenant, ça commence à atteindre 15. Il y a certains commerçants qui achètent pour 14 et ils vendent 15 000 ou 16 000 pour avoir des bénéfices.
Oui, donc ça a vraiment des graves répercussions sur la vie des ménages.
En tout cas.
Et alors, vous disiez que du coup, la communauté se mobilise, par exemple, pour planter des arbres?
C'est même une initiative ici qui est lancée par rapport à la plantation des arbres. On a commencé à sensibiliser les gens sur une personne, un arbre.
Une personne, un arbre, c'est le slogan.
Un arbre, Inch'Allah.
C'est-à-dire que chacun, chaque famille, par exemple, a l'obligation de...
Chaque membre de la famille doit planter un arbre.
Oui.
Et peut-être ça peut diminuer la désertification et on peut avoir une abondance des arbres de sorte que la pluviométrie aussi peut s'améliorer.
Oui. Et comment est financée la plantation de ces arbres? Est-ce qu'on soutient les familles financièrement pour acheter ces arbres et les planter? Est-ce qu'il y a un suivi aussi pour voir où on les plante exactement? Ou est-ce que chacun doit faire un petit sacrifice pour pouvoir acheter soi-même un plant d'arbre?
Bon, il y a des ONG qui aident les gens surtout. Ils sont là pour creuser des demi-lunes et planter les arbres. Il y a des gens qu'on choisit dans le village et ils font l'activité de sorte qu'on va appeler des gens pour planter des arbres dans des demi-lunes. Une action pour le bien-être.
Oui.
C'est un projet.
Et il existe plusieurs projets de ce genre?
Bon, je ne sais pas d'autre côté s'il y en a des projets, mais ici c'est le projet qui fait ses activités par rapport à la plantation d'arbres. Une fois les demi-lunes creusées, maintenant, on va attendre la pluviométrie pour planter des arbres.
Et tout le monde reconnaît le bien fondé de cette démarche et suit le mouvement.
Inch'Allah.
Et vous, en tant qu'enseignant, vous parlez de ce sujet avec vos élèves aussi?
Effectivement, c'est ce que nous enseignons aux élèves. Il y avait même une initiative chez nous aussi à l'école. On fait demander chaque élève de l'école de planter un arbre dans le domaine scolaire. Donc, dans ce sens, nous contribuons à la plantation d'arbres.
Et donc, ça a été effectué dans l'enceinte de votre école, avec les élèves?
Dans l'enceinte, oui, avec les élèves de l'enceinte de notre école.
Et après, ils assurent le suivi, ils arrosent, ils suivent l'évolution des plantes ou des arbres?
Oui, quand on vient même dans l'environnement de notre école, ou bien dans le domaine de notre école, on va trouver beaucoup d'arbres, et très grand même, je vais dire.
Oui, des arbres qui sont destinés à faire de l'ombre.
À faire de l'ombre. La personne peut passer toute la journée sous l'arbre sans voir le passage même du soleil, je peux dire.
Donc c'est une démarche efficace selon vous?
Inch'Allah. Et si la communauté s'active dans ce sens, on va avoir n'importe où aussi des arbres pour améliorer notre environnement.
D'accord. Bah, souhaitons-le en tout cas. Alors je vous souhaite bon courage avec vos élèves.
Merci, merci.
Hiro de Dakar au Sénégal pense aussi qu'il faut planter beaucoup d'arbres, éviter les usines qui polluent et interdire les voitures diesel. Notre priorité, c'est de lutter contre les coupeurs de bois, y compris dans la forêt de Casamance, dans le sud du pays, écrit-il. Et il nous rapporte que dans la banlieue dakaroise, la montée des eaux est déjà perceptible. Sur Facebook, David de RDC observe que la dégradation de l'environnement est certes réelle. Mais que faire, s'interroge-t-il. Je n'arrive pas à voir comment l'Afrique pourra répondre à l'adversaire. L'Afrique subit de plein fouet la dégradation environnementale alors qu'elle produit le moins d'émanations toxiques, par exemple. La question est cruciale et nécessite une profonde réflexion des élites africaines sur le sujet. Il faut agir, affirme David. Alors il n'est pas impossible de limiter le réchauffement à condition que tous s'y mettent. planète. Selon les experts du GIEC, il faut une action urgente, collective et sans précédent dans tous les secteurs. C'est bien l'avis de Jeannette Bozinghizi, coordinatrice de l'ONG Logos Premier en RDC, qui s'engage en faveur de l'environnement et contre le réchauffement climatique. Elle a d'ailleurs reçu le prix Courage de l'ambassade des États-Unis, édition 2013, pour son engagement. Pour elle, la sensibilisation doit commencer dès le plus jeune âge, parce que le phénomène touche tout le monde, même en RDC, et tout particulièrement les femmes.
On a maintenant beaucoup de soleil. Par exemple, ici à Kinshasa, il fait très chaud. Bien sûr qu'à Kinshasa, il fait très chaud, mais ça a augmenté. Et souvent, les femmes rurales sont en train de se plaindre parce que quand ils sèment, eux, ils gardent l'ancien calendrier, quoi. Et quand ils sèment, après, quand il n'y a pas de pluie, ils perdent la semence. Elles perdent la semence plutôt.
Et donc, ces changements climatiques ont des incidences économiques déjà directes, palpables.
Oui, il y a des incidences économiques, mais ça ne se sent pas encore comme sous d'autres cieux, mais comme j'ai dit, le Congo est le deuxième poumon. Mais si ça continue comme ça, moi, mon cheval de bataille, on est en train d'essayer de sensibiliser que chacun puisse planter au moins un arbre, parce qu'on dit un arbre, c'est une vie. Et on essaie de sensibiliser même les écoliers. Je travaille avec une école qui a au moins 6000 élèves et j'essaie de travailler avec ces écoliers pour dire, allez, chaque fois que la journée de l'arbre, par exemple, je vais dans cette école et je plante des arbres avec les élèves. La journée, par exemple, de l'environnement, je fais une activité. La journée des toilettes, je fais une activité. La journée des lavages de mains. Donc, tout ce qui concerne le climat, tout ce qui concerne l'environnement, j'essaie de sensibiliser. Je me dis, bon, nous devons éviter de laisser une dette écologique à la génération future.
Bien sûr. Et ça parle aux élèves, ils sont vraiment conscients, ils se sentent concernés eux-mêmes aussi.
Les élèves, ça va, parce que pourquoi je me dis avec les enfants? Parce que quand nous, ici à Kinshasa, vous essayez de sensibiliser une grande personne, bien sûr, on vous répond en lingala, c'est pas toi qui vas changer le pays. Mais moi, je me dis, toi et moi, et quand on va à gauche et à droite, on sera à 5, on sera à 6. Mais je me dis avec les enfants, c'est une mentalité, un comportement qu'ils doivent maintenant, ils doivent connaître cela et commencer à changer de comportement et de mentalité. Et par exemple, le mois ici, le mois d'octobre, chaque le 15 octobre, c'est la journée internationale de la femme rurale.
Oui.
Et le thème, c'était l'autonomisation de la femme rurale et sa communauté. Et puis, on a fait 15 jours d'activisme pour essayer de sensibiliser cette femme sur le changement climatique, tout en essayant de lui parler des 17 ODD. Donc, chaque comportement va avec tel ODD. Vous voyez un peu, on essaye, mais bon, c'est un travail de longue haleine.
Bien sûr. Et justement,
et
vous
si on croise les bras, on ne pourra pas.
Justement, vous parlez des femmes. Alors, le GIEC souligne le rôle des femmes, justement, dans la gestion du climat. Vous pensez que, en effet, les femmes ont un rôle tout particulier à jouer?
Un grand rôle. Parce que ce sont les femmes en Afrique, ce sont les femmes qui vont au champ. Ce sont les femmes, ils ont un grand rôle à jouer parce que ce sont les femmes aussi qui coupent les brindilles quand ils n'ont pas à manger, qui coupent les brindilles et en font le makala, la braise.
Oui.
Et vous voyez, si la femme est sensibilisée que cela coûte, ça va coûter et à sa famille et à sa génération, qu'elle puisse changer de comportement, je crois que ça peut impacter. Donc la femme vraiment peut impacter sur ce comportement, sur le changement climatique. Elle peut impacter positivement.
Alors vous-même, vous avez participé à la conférence sur le climat à Bangkok et vous êtes, j'imagine, aussi de tout ce genre de réunions, de conférences un petit peu partout. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce genre de conférences? Parce qu'on parle toujours d'accord, on essaye de faire à minima, bon voilà, et puis on a l'impression quelquefois que ce sont des belles paroles et qu'il n'en sort pas grand-chose.
Voilà.
Donc vous-même qui êtes impliqué sur le terrain, qui voyez la vie justement, par exemple, des femmes au jour le jour, par rapport à ces grandes conférences, est-ce que vous pensez qu'elles servent réellement à quelque chose ou c'est pas un petit peu décalé avec les réalités sur le terrain?
C'est ce que moi je suis en train de déplorer. J'ai dit aux femmes, on prend une décision pour les femmes sans les femmes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui participent à ces conférences.
Oui.
On vous dit on va faire ceci, on va faire cela, mais on prend des décisions pour la femme sans la femme. Si la femme aussi pouvait avoir les moyens, les femmes, surtout les femmes rurales là, si on avait les moyens, on prenait deux ou trois femmes, elles assistent. Elles peuvent assister à ces discussions, à ces réunions. Je crois qu'elle sera plus consciente parce qu'elle est bien placée pour rentrer et faire la restitution aux autres. Parce que faire la restitution, ce n'est pas une messe à boire, ce sont les moyens, tout ça, tout ça. Et parfois, on est très limité. Moi, j'essaie de sensibiliser les femmes. Je dis, bon, au lieu d'aller tout le temps à New York pour courir par-ci, par-là, parler de l'autonomisation de la femme, je crois qu'on pourrait plus aller dans les réunions où on parle du climat. Parce que la femme peut impacter si elle est informée.
Et avoir des réunions de proximité plus que des grandes réunions où tout le monde se déplace, où on dépense beaucoup d'argent, et investir plutôt à ce moment-là sur des projets concrets plus proches, par exemple, des femmes.
Oui, moi, je prends mon exemple. J'y vais dans ces réunions. Toutes les résolutions prises dans ces réunions, si j'ai les moyens, je rentre maintenant, je fais la sensibilisation à proximité. Je vais, je parle, je fais la restitution. Écoutez, voici les conséquences. Vous voyez maintenant pourquoi vous plantez et ça ne donne pas. C'est parce que. Mais quand nous allons là-bas, c'est bon. Faire des grandes messes, c'est bon. Mais quand on rentre et les concernés ne sont pas informés, moi je crois qu'on ne fait rien. Parce que ce n'est pas la ville seulement. Moi je me dis, ça c'est femmes rurales. Il n'y a pas de ville parce qu'il n'y a pas de vie. On mangera quoi si? Et quand on n'a pas mangé, est-ce qu'on peut avoir la force même d'aller à la COP 21, à la COP 22, à la COP 23, partout où on va là-bas?
Après, c'est aussi une question de financement. C'est toujours ça aussi qui fait problème.
Oui, c'est surtout ça. C'est le financement, on a les maigres moyens, on se débrouille, on court par-ci, par-là. Et quand on revient parfois, on est là, on a la matière, mais on ne sait pas aller vers les concernés parce qu'on est limité dans les moyens.
Si vous en aviez les moyens, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Vous avez parlé de vos projets, par exemple, dans les écoles avec les femmes. Quelles seraient, selon vous, les priorités s'il y en avait vraiment les moyens?
Moi, si j'avais les moyens, j'allais seulement m'accrocher à deux projets. Je travaille avec les élèves, les enfants, parce qu'avec eux, ils comprennent. Et dans 5 ans, 10 ans, il y aura changement. Et avec les femmes rurales, j'irai vers les femmes rurales. Je n'attendrai pas que ces femmes puissent se déplacer pour venir en ville, parce que ça leur coûte aussi. Mais moi, j'irai vers ces femmes. Et si j'ai un projet qui peut les aider à ne pas couper les arbres pour qu'ils puissent avoir le charbon, par exemple, parce qu'ici, on prépare avec la braise, on prépare avec les brindilles, là, et leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Au lieu de faire ça, on peut reboiser et au lieu de couper, on peut planter. J'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé, par exemple, les herbes éléphants. Les herbes éléphants, on peut les planter et au lieu de couper les arbres, ça peut remplacer pour faire la braise et ça fertilise le sol. Moi, je me dis, tant mieux si on peut, mais tout ça, c'est bien, on a cette connaissance. Mais pour amener cette connaissance, apporter cette connaissance aux autres, il faut toujours des moyens.
Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas et bon courage.
Merci, j'ai eu le plein de courage.
Mais oui, bien sûr. Félicitations.
Merci.
Steve d'Abidjan, Côte d'Ivoire, constate de son côté qu'on peut 1000 fois se réunir en conférences et autres rencontres, mais sans les moyens financiers adéquats, les objectifs visés resteront des visions irréalistes sans suite. Togo Bewezima de Lomé nous rapporte, lui, un phénomène inquiétant, celui de l'érosion des côtes. La terre avalée par la mer, c'est très visible. La mer avance et engloutit les villages. Les riverains peuvent témoigner de la distance qui séparait la côte et la mer il y a encore 5 ou 10 ans. Exemple, la route qui longe la côte togolaise vers la frontière Togo-Bénin a été déplacée 3 fois de suite à cause de l'érosion côtière. Un phénomène que Mamadou Diallo constate aussi dans son pays, la Guinée. Il est journaliste minier et environnemental et a participé à plusieurs conférences sur le réchauffement climatique, dont la COP23 à Bonn en Allemagne, où je l'ai rencontré.
La Guinée, vous savez que c'est par exemple la capitale Conakry est entourée d'une mer.
Oui.
qui en principe devrait favoriser un climat fiable à la capitale.
Favorable.
Malheureusement, aujourd'hui, ces différentes zones côtières sont affectées, soit par le déversement des déchets. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'on appelle la construction anarchique. Il y a des individus qui, jusqu'à présent, soit par ignorance ou par manque de volonté, continuent à vendre les espaces, les zones au bord de l'eau. Ils ont commencé à ce qu'on appelle faire le remblayage d'un espace de 25 km. Et ce projet a des conséquences néfastes sur l'environnement, parce qu'on est en train de pousser la mer. Et on parle dans le code des océans, on parle de 80 mètres, de ne pas au moins construire 80 mètres près de l'eau, des mers, des océans. Mais on ne respecte pas cela aujourd'hui.
Pourtant, la montée des eaux, elle est palpable, elle
oui,
est visible.
Oui, c'est visible. Vous
comme
avez,
conséquence du réchauffement
vous avez suivi ce qu'on appelle les inondations.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, la plupart des pays africains enregistrent ce qu'on appelle les catastrophes naturelles, soit la sécheresse, les inondations. Les inondations, parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle une poussée abusive des immeubles tout au long des zones côtières, qui n'est pas du tout respectée. Et aujourd'hui, c'est un fléau mondial qui, si l'humanité ne se lève pas, si les responsables qui s'occupent de la politique qu'on appelle l'aménagement du territoire, je crois que les années à venir, le monde va enregistrer davantage des catastrophes, ce qu'on ne souhaite pas. Tous les États sont victimes de cela, mais surtout en Afrique, parce que là, l'espace, c'est-à-dire un terrain, une parcelle, et si vous voulez, c'est comme un diamant. En Guinée, par exemple, on vend une parcelle, vous pouvez là-bas parfois, on parle de 10 millions de dollars ou de 500 000 dollars ou 500 000 euros.
Selon son emplacement.
Selon son emplacement, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, ils ignorent carrément les principes environnementaux, ils violent carrément les codes liés aux océans ou à l'environnement en général, ou à la biodiversité.
Par le profit.
Voilà, par le profit. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces États-là continuent toujours à subir les conséquences néfastes liées au dérèglement climatique. Et aujourd'hui, je crois que la COP doit être vraiment une solution pour l'Afrique. Parce que là, quand même, les grands pollueurs doivent savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique, au lieu de les sensibiliser, d'investir ou d'accueillir des migrants contre-productifs parfois, il faut faire en sorte que leurs projets environnementaux soient financés. Parce que c'est l'Afrique qui est la principale victime. Et les États-Unis, l'Europe, la Chine doivent savoir qu'aujourd'hui, en finançant ces projets environnementaux, en respectant l'accord de Paris, il y a des jeunes qui sont dans ces différentes structures, soit des coalitions, des réseaux, des ONG, des journalistes qui ont des projets. Par exemple, nous, moi, je suis venu avec un projet d'un consortium des journalistes qui traite les questions minières environnementales, c'est que la résilience d'une zone qu'on appelle Kobak, qui est à 70 km de la ville de Conakry, qui est dans la région Boxiti, qu'on appelle à Bofa. C'est une zone qui est vraiment aujourd'hui affectée par les changements climatiques. Elle était à l'époque une zone très humide, favorable, qui accueillait énormément de touristes, mais aujourd'hui, par des activités humaines, parce que tout simplement, on ne respecte pas les normes environnementales, la zone, elle est vraiment sinistrée. Donc, on est en train de faire en sorte que ce projet de résilience soit vraiment financé par un certain nombre d'institutions pour pouvoir vraiment sauver la localité, mais surtout s'impliquer davantage dans ce processus qui n'est pas facile jusqu'à présent.
Remarquez que ces questions relatives à notre environnement et au climat tout particulièrement interpellent de nombreux abonnés, y compris en dehors du continent africain, comme Elisangela de Manaus au Brésil. Elle s'inquiète notamment des répercussions que le réchauffement aura pour la santé, parce que ces températures élevées ont provoqué beaucoup d'incendies qui ont brûlé les forêts et la qualité de l'air s'en ressent aussi, tout comme l'agriculture, parce que les fortes chaleurs ont provoqué des pertes en matière de récolte et le changement climatique favorise aussi l'apparition de virus, souligne Elise Angela. Notez que dans un rapport publié le 10 octobre, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes explique que le changement climatique augmente la fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes et donc les pertes économiques dues à ces catastrophes, entravant le développement des pays, en particulier ceux à faible revenu. Voilà, avant de se quitter, si vous voulez m'écrire un rappel de mon adresse mail, par exemple, c'est mireille.drone@dw.com. Vous pouvez aussi m'écrire via WhatsApp. Pour vous inscrire gratuitement, vous tapez dw.com/WhatsApp. Vous pouvez non seulement nous y laisser des messages, parler ou écrits, mais en plus vous recevrez nos informations. Si vous êtes plutôt branché sur Facebook, notre adresse l'adresse, c'est tout simplement dw.afrique. Et puis, pour consulter notre site internet, il suffit de taper dw.com/français sans cédille. Vous y retrouverez toutes les émissions du Club de l'Auditeur et puis tous nos programmes à télécharger dans la rubrique médiathèque, ainsi que les liens vers nos pages Facebook et Twitter. À très bientôt donc, j'espère, le plaisir de vous lire ou de vous entendre. Bonne écoute et bon week-end à tous. Au revoir.
Pa ja pa ko,
kare kitsa na mai pende.